Bernard Jouan, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la position de l'association Prévention Routière sur cette question des 80 km/h ?
Alors, si vous voulez, on peut commencer par ce sujet, puisque c'est le sujet
chaud, brûlant.
L'objet, et puis le sujet qui est d'actualité en ce moment. Et puis après, j'aimerais bien revenir, parce qu'on va avoir pas mal de temps ensemble, sur les points qu'on peut évoquer ensemble, puisque mes interventions à la radio, dans les radios locales, sont assez rares. Et moi, ce que j'aimerais, c'est en profiter pour parler un peu plus de prévention routière, plus globalement. Alors, pour revenir aux 80 km/h, la position de notre association, c'est de dire que, ben oui, on constate, d'après le bilan provisoire de la mortalité sur les routes en 2018, c'est plutôt positif et c'est toujours très bien quand on voit l'amélioration et la chute des victimes sur les routes. Mais la position de la prévention routière, c'est plutôt de dire prenez le temps de faire de l'analyse de ces statistiques avant de conclure un peu trop vite peut-être sur ce phénomène de baisse de vitesse de 80 km/h. Pour revenir sur les routes du Finistère que je côtoie assez régulièrement, notamment dans le sud Finistère et un petit peu moins peut-être dans le nord Finistère, mais le fait de passer à 80 km/h sur ces routes-là, quand vous regardez sur un parcours, si vous regardez la moyenne à laquelle vous allez sur des petits parcours, vous allez voir que vous êtes bien en dessous des 80 km/h. Voilà pour mon point de vue. Donc je dirais en résumé, c'est attendons pour faire un bilan avec un peu plus de recul sur cette action. Les conclusions viendront d'elles-mêmes, sachant que cette action avait été mise en place pour contribuer à l'atteinte de 2000 victimes au maximum sur nos routes en 2020. On en est encore loin. Donc attendons et je crois qu'il faut se féliciter du fait que la baisse est au moins effective sur cette année.
C'est déjà perceptible sur la petite période des 6 mois, on voit qu'il y a une baisse de la mortalité sur les routes dû à ce 80 km/h.
Alors dire si c'est dû aux 80 km/h, moi je ne peux pas me prononcer. Je pense que le service de la préfecture vont communiquer les chiffres d'accidentologie de décembre et là on aura globalement sur le Finistère le bilan de l'année. Sur le Finistère en lui-même, je ne suis pas certain que le nombre de victimes sur les routes ait diminué, puisqu'en 2017 il était de 48 morts de mémoire sur les routes, 6000 blessés. En 2018, déjà en novembre, on avait 2 victimes de plus sur les routes qu'en novembre 2017. Alors, il faudra voir, je pense, sur le Finistère, je ne suis pas certain qu'on ait baissé en termes de victimes sur les routes.
Alors, est-ce que vous la considérez, cette mesure des 80, au même titre qu'une autre mesure importante? Je pense, la ceinture obligatoire, par exemple. Est-ce que c'est une mesure importante de ce même type d'ordre-là?
Oui, c'est certainement une mesure qui va contribuer à faire chuter le nombre de victimes. Vous vous souvenez sans doute, pour certains, dans les années 72, le record de victimes sur les routes en France avait été battu, malheureusement, avec plus de 16 000, voire 17 000 ou 18 000 morts à l'époque, parce que les statistiques varient plus ou moins, mais enfin bref, c'était un nombre important. Aujourd'hui, en 2017, on était à 3448 victimes sur les routes. Le trafic a augmenté. Quand j'interviens dans les écoles ou auprès des scolaires, parce que je leur montre la courbe des accidents de la route, et c'est impressionnant, et je leur demande les causes. À votre avis, pour quelle raison ces gens ils décèdent sur la route? Quand on prend la route pour aller d'un point B à un point A à un point B, c'est pour arriver vivant au point B, c'est pas pour avoir un accident en route et voire être victime de la route. Donc les gamins, ils savent me dire déjà les causes à l'époque, et la ceinture notamment. Vous souvenez peut-être, pour les plus anciens qui nous écoutaient, la ceinture, au début, on ne voulait pas la mettre. Hein, c'était, si la voiture fait des tonneaux, elle va prendre feu, on ne pourra pas se détacher. Hein, et finalement, aujourd'hui, la ceinture, elle est quand même mise par, je dirais, 95% des conducteurs.
Alors, vous le disiez, on est passé de 17 000 morts par an dans les années 70 jusque dans les années 80. Aujourd'hui, on en est à 3 000, c'est ça, à peu près?
Alors, oui, sur le bilan provisoire 2018, c'était 3226 de mémoire, avec une amélioration par rapport à 2017. Oui, c'est ça. Et on parle pas des blessés. Hein. Les blessés en 2017 en France, je parle de la France métropolitaine, c'était 72 000 blessés. Et sur ces 72 000 blessés, 24 000 hospitalisés. Donc, Et quand je parle des victimes hospitalisées, quand on intervient dans nos séances, c'est un sujet que je connais, parce que malheureusement, j'ai été victime d'un accident de moto à l'âge de 23 ans. Et les hospitalisations, les séances de kiné, la souffrance, le changement de vie. Donc je sais expliquer aussi aux gens qui m'écoutent
les conséquences.
Les conséquences.
Alors, 17 000 à 3 000, il y a quand même eu disparus sur les routes. Il y a eu une évolution aussi dans le comportement sur les routes auquel, par exemple, la prévention routière aurait contribué.
Certainement, le fait d'intervenir à notre modeste niveau dans le milieu scolaire ou auprès des seniors ou des autres populations, pour les sensibiliser au risque, parler des causes. Les causes principales pour le Finistère, c'est, je le rappelle, c'est quand même l'alcool, et voire l'alcool et ou stupéfiants. En 2017, c'était 52% des accidents mortels sur le Finistère.
Les deux combinés ?
Les deux combinés. Alcool, pas les deux combinés, mais soit le mélange, soit l'un ou l'autre. Hein, 52%, alors qu'au niveau national, c'était de l'ordre de 35%.
Alors Bernard Jouan, vous êtes le délégué Finistère au comité départemental de la prévention routière. Alors peut-être on peut parler de la prévention routière, c'est une association derrière. Quelles sont les missions de cette association ?
Alors vous avez raison, c'est bien une association, comme votre radio locale, une association loi 1901. Elle a été créée en 49 et reconnue d'utilité publique en 1955. Par ses actions, elle a démontré qu'elle apportait des gains en termes d'amélioration sur le nombre de victimes sur les routes et le fait de sensibiliser tous les intervenants depuis la primaire jusqu'au senior, ça contribue à faire prendre conscience des risques sur les routes. Alors, cette association s'appuie énormément sur les bénévoles. Sur le Finistère, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons plus de salariés. Le dernier salarié en date, c'était mon collègue Alain Chalet, qui était un ancien gendarme, qui a pris la prévention routière sur le Finistère en 2009, hein, qui vient de partir en début 2018. Et donc je prends son relais et d'autre part sur le Finistère, un nouveau salarié a été, sur le Morbihan pardon, un nouveau salarié vient de prendre son poste et il aura la charge d'animer les réseaux de bénévoles sur le Morbihan et sur le Finistère. Donc très peu de salariés et beaucoup de bénévoles.
De missions.
Et les missions, ah oui.
Les missions, si on peut en dresser un petit tableau, quelles sont-elles au quotidien ?
Les missions au quotidien, c'est de sensibiliser toutes les personnes possibles, hein, toute la population. Au moins, j'en ai parlé un petit peu. On va commencer par les primaires, hein, à les sensibiliser sur la partie piéton. On va leur montrer un petit peu les principaux panneaux. Et on va leur faire une petite sortie autour de l'école avec les gilets jaunes qui sont à la mode en ce moment, mais qu'on demande aux enfants de porter pour être visibles. Donc, on va leur parler de la visibilité. On va leur apprendre à traverser la rue, regarder à gauche, à droite, puis à gauche. À regarder les panneaux, les certains panneaux et reconnaître les risques. Ensuite, quand on va aborder, on aborde avec les 6e plutôt de la partie vélo, même si on l'aborde un petit peu avec les CM1, CM2 en faisant du vélo sur la cour de récréation. Avec les 6e, par contre, on travaille en partenariat sous l'égide du conseil départemental, hein, avec des clubs cyclistes. Nous, on va faire une partie théorique en salle où on va aborder les panneaux, qu'est-ce qui est obligatoire sur un vélo, les éléments de sécurité. Et ensuite, ils vont aller faire de la piste sur la cour, la maniabilité, et ils vont terminer par un circuit en ville ou en campagne selon le lieu.
Ça, c'est quelque chose de quasiment institutionnalisé. En fait, c'est un rendez-vous qui est presque attendu par les enfants, ou il y a des partenariats avec l'éducation nationale ?
Alors, peut-être pas directement, mais l'éducation nationale certainement travaille avec la prévention routière, avec notre siège. Les enseignants ont dans leur programme une obligation pour aborder tous ces sujets de prévention routière. Hein. Alors, ils peuvent le faire très bien, les enseignants le font parfois seuls. Parfois, ils nous appellent pour qu'on leur envoie des documents, on leur envoie une documentation adaptée à leur population, à des élèves. Soit, on travaille aussi beaucoup avec les collectivités, notamment celles qui ont mis en place des polices municipales. Donc on peut les former. Au mois d'avril, on a une formation sur 3 jours à Châteaulin là, pour former les intervenants en éducation routière. Donc on va y accueillir à la fois les policiers municipaux, mais aussi les emplois jeunes, les animateurs jeunesse, pour leur donner les éléments et pour leur donner un outil qui s'appelle le MobiliPass. Hein, c'est un classeur avec un CD-ROM. Et là, ils vont pouvoir aborder tous ces sujets de prévention routière avec les classes primaires.
Alors, on parle de l'association Prévention Routière, ça ne pas confondre avec la sécurité routière. C'est quoi la différence entre les deux ?
Alors, c'est vrai, ouais. Vous avez bien fait d'insister, puisque moi, quand je viens de chez Orange, hein, je suis actuellement mis à disposition par Orange à la prévention routière, ça s'appelle du mécénat de compétences. Quand on m'a dit au départ, j'ai regardé un peu les associations pour lesquelles je pouvais m'investir, et c'est vrai que j'ai confondu au départ les deux, la sécurité routière et la prévention routière. Et ben, bon, en me renseignant et en allant voir la prévention routière, j'ai vite compris. Hein, la sécurité routière, c'est un service à part, qui appartient, enfin qui dépend de la préfecture, donc c'est l'État qui a ses missions, qui parfois des missions qui peuvent être comme les nôtres. On peut se retrouver sur des animations avec eux. Je dirais qu'on fait un travail complémentaire et par contre, nous, prévention routière, on vit avec nos subventions et on a aussi une subvention du département et de la sécurité routière, une subvention annuelle dans le cadre du programme de prévention des risques sur le département. Alors je dirais la différence, c'est eux, sécurité routière, sont salariés. Ils emploient parfois des intervenants pour faire des actions comme les nôtres, par exemple au niveau des seniors. Mais nous sommes association loi 1901.
Très bien. J'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, le comportement des Français. Moi, c'est peut-être une question là, plus personnelle avec votre regard. Peut-être que, est-ce qu'on peut se poser la question, comment ça se passe ailleurs en termes de sécurité routière ? Moi, un truc qui m'a toujours épaté, c'est de voir sur certaines autoroutes en Allemagne la vitesse qui n'est pas limitée. Pourtant, a priori, en termes de mortalité sur les routes, il n'est pas plus différent, quoi. Comment on explique qu'ici, peut-être, on ait ce petit côté un petit peu plus répressif ?
Alors là, sur ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, je n'ai pas forcément de réponse et d'observation que j'ai pu faire. Juste une remarque, par exemple, quand j'interviens au milieu scolaire, il y a souvent des enseignants qui nous accompagnent et quand on aborde les accidents en Bretagne, on a un certain pourcentage d'accidents pour une cause que la personne roulait à gauche. Et alors, dans le centre Finistère, on me dit, bah oui, les enfants, ils me disent, bah oui, c'est normal, monsieur.
C'est la faute des Anglais ?
Il y a des Anglais. Mais finalement, c'est pas forcément ça. Hein, c'est de l'inattention. C'est des gens qui sont distraits, ce qu'on appelle par des distracteurs. Ça peut être le mobile, le GPS, etc. Alors, par contre, j'ai eu deux ou trois réactions d'enseignants, de professeurs d'anglais qui m'ont dit, quand on aborde le passage piéton, vous savez, chez nous, les passages piétons, même si le nombre de points qu'on peut perdre a augmenté l'an dernier, il est passé de 3 à 6 points pour protéger ces piétons, vous savez qu'il faut quand même bien regarder plusieurs fois avant de traverser. Les Anglais, les professeurs anglais, ils me disaient, chez nous, c'est systématique, l'automobiliste s'arrête au passage piéton. Donc chez nous, j'ai noté un peu d'amélioration dans mon petit périmètre du sud Finistère. Mais je dirais, à part l'Angleterre, l'Allemagne, c'est vrai, il y a des tronçons d'autoroute qui sont, quelques tronçons d'autoroute qui sont en vitesse libre, si j'ai bien compris. Mais je n'ai pas les données d'accidentologie pour les Allemands.
C'était juste une petite question sur un regard. Hein. Il n'y avait pas forcément quelque chose de très factuel. J'attendais pas quelque chose de forcément de très factuel dans la réponse. Pour revenir un petit peu à ce qui est fait dans les écoles, vous l'avez dit juste avant, c'est du bénévolat. C'est des bénévoles qui viennent intervenir dans les écoles. Et quels sont un petit peu les thèmes qui sont abordés plus spécifiquement, du coup, par exemple, à l'école primaire ?
Alors, je vais y revenir déjà. Peut-être un point sur les bénévoles, puis notre association. Je vous ai pas trop expliqué, mais j'en profite pour expliquer ce qu'on fait. Hein. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, on intervient au milieu scolaire, on intervient auprès des seniors, on intervient aussi au niveau des associations qui nous sollicitent, et aussi dans les festivals. Là où on intervient, le plus grand festival de Bretagne et peut-être de France, c'est au Vieille Charrue. Et mon collègue Alain, qui encadre une équipe d'une vingtaine de bénévoles, à partir du jeudi soir jusqu'au lundi matin, il est à disposition des Vieilles Charrues. Il travaille principalement la nuit pour la prévention des risques liés à l'alcool. C'est le principal, hein, c'est de faire en sorte que les gens repartent et qu'ils sachent s'ils peuvent conduire ou pas. Alors, pour ce qui est du programme scolaire dans les écoles, alors les bénévoles qui peuvent se libérer en semaine, il y en a très peu, parce que la plupart du temps, ils travaillent. Par contre, là, on a quand même un noyau de 4 ou 5 bénévoles qui m'accompagnent auprès des écoles. Alors, les thèmes abordés, ben, j'en ai parlé un petit peu, hein. C'est comment traverser la rue pour les plus petits, quels sont les risques. Pour les sixièmes, on va regarder également ce qui est obligatoire sur un vélo, parce que là, c'est à l'âge auquel ils commencent à faire du vélo. Là, on va aborder aussi ce qu'on appelle les ronds-points abusivement en Bretagne, puisque les ronds-points en Bretagne, il n'en existe pratiquement pas, c'est plutôt des giratoires. La différence entre les deux, je l'ai appris à la prévention routière, c'est que le giratoire, c'est ce qu'on connaît hein, avec des cédés de passage, et le rond-point, lui, n'a pas de cédé de passage, c'est une priorité à droite qu'on a. Mais bon, ça, c'est l'anecdote.
Ah non, mais c'est bien, j'ai appris un truc.
Et quand on aborde des sujets après avec les troisièmes, quatrièmes, là c'est plutôt la préparation pour eux à ce qu'on appelle la SSR, hein, l'attestation de sécurité routière niveau 1 et niveau 2. Ensuite, auprès des secondes jusqu'au terminal, là on va aborder les risques liés aux consommations ben, soit d'alcool, soit de stupéfiants. On va aborder le scout, parce que la plupart d'entre eux là, démarrent le scout, enfin commencent le scout, c'est un peu la liberté. Et par exemple, juste l'anecdote aussi, quand on leur demande qui a un scout, donc les enfants lèvent la main, il y en a déjà toujours, hein, à combien vous roulez? Alors ça commence à 45, donc ça c'est les plus sérieux. Et avec mon collègue Alain, on a vu dans une séance quelqu'un qui roulait à 110. Alors nous, on leur explique 110 km/h, c'est le scout, il n'est pas fait pour ça. Si, ça veut dire que vous l'avez gonflé à un moment donné et vous ne serez pas couvert par l'assurance en cas d'accident, et c'est très dangereux. Notamment, il n'est pas conçu pour freiner à cette distance, à cette vitesse-là. Et les frais sont pour la personne ou les parents, donc on leur explique ça. Alors les enfants reçoivent plus ou moins l'information. Ben, ça dépend, c'est l'âge où. Je disais tout de suite, là, c'est l'âge où c'est la liberté, le scout. On leur apprend aussi ce qui est obligatoire. Les gants, par exemple, sont obligatoires depuis l'an dernier. Sur un scout, on peut, pour protéger les mains, parce que quand on chute, on leur explique, c'est la main qui va protéger qu'on met en premier. Après, quand on aborde avec les seniors, c'est une autre population, hein, on aborde des sujets à risque également
Ça se
pour
fait
eux.
dans quel cadre avec le public adulte?
Alors, public adulte, bien souvent, c'est une association de seniors qui nous appelle, qui nous contacte, qui nous disent, voilà, on a un projet, on regarde ensemble ce qu'on aborde, mais bien souvent, on aborde toujours les mêmes thèmes. C'est un petit rappel du code de la route, les risques, l'alcool aussi, hein, les stupéfiants moins, mais l'alcool. Et bien souvent, on est surpris parce que les papy-mamies, moi, j'en ai vu venir avec un éthylotest électronique en me disant, ben voilà, moi, j'ai ça. Quand je fais la fête, enfin, c'est pas besoin de faire la fête, puisque ça monte très vite au niveau alcool. Mais par contre, très raisonnable. Et avec eux, on aborde aussi un sujet qui est important et qui les touche profondément. C'est le fait de savoir jusqu'à quel âge ils peuvent conduire. À un moment donné, ben, papy, mamie, moi j'ai eu l'exemple de mon père. À un moment donné, il faut savoir lui dire, il faut qu'il accepte également de dire, ben non, je ne suis plus capable de conduire, je vais trouver des moyens de transport, plutôt bus ou quelqu'un qui peut m'amener faire mes courses. C'est compliqué.
Est-ce que l'État doit légiférer sur cette question et arrêter une position et déterminer des critères jusqu'à quand peut-on conduire?
C'est une bonne question, puisque je crois qu'il y a des pays qui l'ont fait, hein. Mais vous savez, mettre un A pour un jeune conducteur sur son pare-brise arrière, c'est fait chez nous, hein. Et
Ouais.
ça ne les empêche pas de nous doubler sur la voie rapide quand on est à 110, mais, alors qu'ils devraient rouler à 100. Mais pour les papy-mamies, mettre un signe distinctif ou faire des examens, pourquoi pas, ça viendra peut-être passer une visite médicale. Mais alors, c'est vrai que les personnes vulnérables sur la route, ce sont les jeunes et les plus de 75 ans. Quand on regarde les accidents et les
Les courbes,
accidents,
ouais.
ouais, exactement, et les accidents mortels.
Alors, un rôle parmi d'autres qui sont aussi exercés par l'association de prévention routière, c'est un travail que vous menez dans les villes via le label Ville Prudente et Morlaix a obtenu récemment ce label. Est-ce que pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr, c'est d'actualité puisque c'était lundi la remise du label en mairie de Morlaix avec madame la députée maire. Ce label, il a été, c'est une suite de ce qu'on appelait avant les écharpes d'or. Il ne voulait pas dire grand-chose quand on le regarde de loin. Écharpe d'or, c'est quoi? En fin de compte, c'était une action pour récompenser une commune ou une ville pour ses actions entreprises en matière de prévention routière, de sécurité routière. En 2018, a été créée, pour prendre la suite, la Ville Prudente, qui est un peu plus parlant. Par le terme, hein, Ville Prudente, c'est un label que la prévention routière a mis en place là pour les villes justement et les communes. Ça s'adresse à l'ensemble des villes communes, hein, d'une toute petite commune jusqu'à la ville importante, puisqu'il y a différentes graduations dans ce label. Et il y a déjà un dossier à déposer auprès de la prévention routière qui va se faire là pour la deuxième année en ce moment, là, jusqu'au mois d'avril. Les communes vont déposer un dossier. Ensuite, il y aura une étude du dossier par un jury. Et le jury va faire un choix. Il va certainement, comme l'an dernier, éliminer des communes. Puisque moi, j'avais dans le Finistère, il y avait deux communes qui avaient candidaté. Il y avait Briec de Lodeck, qui est à côté de chez moi, avec qui je travaille bien sur la prévention. Et Morlaix, avec qui on travaille également. Briec n'a pas franchi la première étape, mais je pense qu'ils vont recandidater cette année. D'autres communes aussi. Je pense à Landéda, notamment, qui devait aussi candidater cette année. Donc, les communes candidates, après, passent au filtre du jury sur dossier. Et ensuite, il y a un auditeur de la prévention routière. Donc, c'est quelqu'un de nos équipes, un bénévole. Il va aller sur place vérifier le dossier. Est-ce que ça correspond? Est-ce que vous avez marqué dans le dossier correspond à ce qu'il y a réellement sur le terrain? Je pense à Morlaix. Ils ont fait des zones 30 km/h. Ils avaient fait aussi un passage piéton en 3D pour attirer l'attention. Et vous avez peut-être vu des photos sur la presse ou sur Internet. Donc l'auditeur, il vient voir si ce qu'on a dit, si ce que la commune a dit ou la ville est bien mis en place. Et puis ensuite, il y a un dernier jury, ben après ce retour d'audit, qui va attribuer au label, il va attribuer 1, 2, 3, 4 ou 5 cœurs. Il y a 5 niveaux. Et Morlaix, par exemple, il a eu 3 cœurs, donc il a atteint 3 niveaux.
Alors, les critères, par exemple, il y a un critère en termes de zones limitées à certaines portions à 20, 30, par exemple, ça rentre en compte un petit peu? C'est en lien avec la vitesse ou...
C'est pas que la vitesse, c'est un ensemble d'actions qui ont été entreprises par la commune ou la ville pour faire diminuer l'accidentologie ou les risques. Parce que la ville de Morlaix, moi j'ai pas les chiffres d'accidents sur la ville de Morlaix, mais ben, il y en a malheureusement. Ça démarre aussi dans les actions, ça démarre pour les actions scolaires. Hein, Morlaix,
c'est un ensemble.
C'est un ensemble, oui. À Morlaix, par exemple, j'ai terminé, ils ont une policière municipale qui a fait une formation avec nous l'an dernier. Elle forme chaque année entre 400 et 550 enfants des écoles primaires sur la commune de Morlaix.
Et ça fait partie aussi du jeu. Et pour résumer, donc, l'association de prévention routière, donc on dit qu'il y a l'éducation routière, l'information et la sensibilisation, la formation des conducteurs par des stages de sensibilisation pour les infractionnistes, les actions en entreprise et les séances pour les seniors, vous en avez parlé. Ça fait beaucoup pour du bénévolat, non ?
Eh oui. Alors juste un petit bémol, c'est que, une parenthèse, c'est que la formation, il y en a une qui démarre demain. On fait une formation deux jours par semaine, deux jours par mois en général, sur Brest, Quimper, Lorient-Vannes, enfin sur les grandes villes. Des formations qui sont faites par des personnes agréées, hein, notamment une psychologue et une monitrice ou un moniteur de moniteur d'auto-école. Donc c'est et pour ces formations-là, on a un agrément de la préfecture. C'est pas les bénévoles qui les font, ces formations. Et dans la population qu'on y retrouve, hein, ce sont des gens qui ont fait des infractions plus ou moins graves, qui sont envoyés par le délégué du procureur sous forme de peine. Ils vont faire ces deux jours sous forme de peine. Ils vont payer cette formation aux alentours de 200 euros. Et on retrouve dans les mêmes populations, avec ces populations-là, des gens qui viennent d'eux-mêmes pour récupérer 4 points. Hein. En deux jours, on peut récupérer 4 points au maximum par an, hein, sur le permis.
Alors, il y a une partie bénévolat aussi du coup, mais il y a une autre partie qu'on a tout petit peu évoquée, c'est le mécénat de compétences. On va finir peut-être avec ça pour nous peut-être expliquer aux auditeurs ce que c'est que le mécénat de compétences. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu.
Alors peut-être, sans doute même, puisque Orange, par exemple, s'est lancé dans le mécénat de compétences il y a quelques années par ce qu'on pourrait appeler un temps partiel senior. C'est presque une pré-retraite, mais qui n'en est pas, puisque c'est quand même l'entreprise qui rémunère ses salariés. Et le salarié, en contrepartie, va s'engager à mettre ses compétences à disposition d'une association. Alors, l'important, moi je suis responsable d'un club de pétanque, je suis président d'un club de pétanque. Évidemment, Orange ne va pas me salarier pour m'occuper de mon club de pétanque. Il faut que l'association soit reconnue d'utilité publique. Alors, ça peut être prévention routière, j'y suis. Ça peut être les Restos du Cœur ou d'autres associations à intérêt général. La Poste a fait la même chose, puisque sur Rennes, on a un collègue qui vient de La Poste, et j'en oublie sans doute. Donc peut-être je peux faire un appel. Hein. Si parmi vous, parmi les auditeurs, il y a une entreprise qui fait ce mécénat de compétences, la prévention routière peut accueillir encore au moins un ou deux mécénats de compétences. Principalement, on voudrait développer toutes nos actions sur le Nord Finistère, puisqu'aujourd'hui, on est on n'y est pas très nombreux. Donc si on a du monde, des candidats bénévoles ou mécénats de compétences sur le Nord Finistère, nous sommes preneurs.
Et qui dit association dit aussi appel aux dons.
Ah, très juste. Alors si vous voulez, on peut aborder, je ne sais pas quelle heure il est.
Ah bah oui.
Alors on va aborder un peu le financement. Hein. Alors on intervient à la demande, bien souvent. On intervient alors... Pour le conseil départemental, d'ailleurs lundi, je vais assister à une réunion avec tous les intervenants pour définir le programme 2019 dans les écoles, notamment les 6e. Et là, le conseil départemental nous verse une subvention annuelle qui est de l'ordre, enfin qui est de 8 800 € exactement. Globalement, l'association Prévention Routière du Finistère, nous vivons avec environ 20 000 € par an. Donc vous voyez que l'action du conseil départemental et sa contribution est très importante. Et quand une association... de retraités ou une école ou un collège ou un lycée nous sollicite. J'étais à Vauban la semaine dernière sur Brest. J'ai vu 450 élèves en 3 jours. C'était impressionnant puisque c'était dans un amphi avec plus de 100 élèves et c'est la première fois que j'avais autant de monde. Enfin bref, on demande une subvention, un accord préalable. Pardon, un don. Nous, on ne peut pas émettre de facture, on demande un don. Alors, l'ensemble de ces dons nous permet de vivre, de payer notre loyer, notre téléphone et les brochures qu'on remet, etc., etc. Donc, on a un budget à peu près de 20 000 € par an. Ça nous permet de mettre de l'essence aussi dans notre vieux Kangoo, parce qu'il a pas mal de kilomètres et on aimerait bien s'en acheter un neuf, mais on n'a pas trop les moyens. Voilà un petit peu comment on vit.
Les brochures, assez épaisses et instructives, on les laissera à la radio si jamais des auditeurs veulent venir jeter un œil à ces petites brochures. Merci beaucoup Bernard Jouan, donc délégué Finistère au comité départemental de la prévention routière.
Merci, bonne journée.
Yeah.
toujours à l'écoute du LEM sur Radio Évasion, comme chaque mercredi du mois. Et j'ai même pas désannoncé le titre. C'était You Vicious, Pretty is All You Have, à retrouver le samedi 23 mars au Novomax. Allez, maintenant je peux annoncer le prochain sujet. Donc comme chaque premier mercredi du mois, on se retrouve dans cette deuxième partie de LEM, une rubrique à savourer au coin du feu, avec un bon livre à découvrir en famille grâce au conseil de Bérangère Lebrun, la libraire de Lily Roulotte, librairie jeunesse installée dans un camping-car qui sillonne les routes du Finistère. Et elle livre à Véronique ses trois coups de cœur de février.
Comme toujours, Lily Roulotte nous promène sur les chemins de la littérature pour enfants, du plus petit au plus grand. Là, on va commencer par une nouveauté, Petite Pousse.
Oui, alors Petite Pousse, écrit par Sandra Le Guen, illustré par Poppy Matigo, et paru chez Sarbacane au premier semestre 2019. Alors Petite Pousse, on pourrait s'attendre à parler de jardin, mais il n'en est pas question. En fait, il est question d'une petite pousse qui grandit, qui au fil des pages nous raconte en fait toute son histoire de les premiers mois et dans le ventre de maman et ensuite. C'est une histoire qui est écrite à la première personne et qui est très très rythmée, qui donne envie à chaque page de connaître la suivante. Avec, je vais vous lire un passage pour vous rendre compte de ce que ça donne. Je suis arrivée dans le ventre de ma mère. Je ne m'en souviens pas. Je sais juste qu'elle ne l'était pas encore. Maman, je suis. Je suis un tout petit œuf niché au creux de ses entrailles. Un œuf qui s'est installé sans demander, sans être choisi non plus. Mais je peux rester. Je suis attendue. Je suis. Je suis là. Chut. Elle ne le sait pas encore. Lui non plus. Il s'embrasse, il s'enlace, il s'aime. Je suis. Et pour connaître la suite...
Et un petit mot des illustrations qu'on imagine.
Alors les illustrations avec de dominantes bleues, oranges, jaunes. Et tout en rondeur et de la douceur, de la poésie dans ce livre et à la fois du peps, je trouve, sur la manière dont c'est écrit.
Alors, on quitte la chaleur du ventre pour se risquer dehors malgré la pluie.
Oui, alors on va se risquer dehors malgré la pluie parce que c'est agréable d'aller sauter dans les flaques. Par contre, c'est toujours bien d'être bien équipé, donc mettons nos bottes. je vais vous parler les bottes d'ailleurs d'Antonin Louchard, paru chez Seuil Jeunesse, où on retrouve notre petit lapin à l'école et qui a bien du souci en fait à enfiler ses bottes. Donc sa maîtresse charmante qui fait du yoga, de la méditation, qui se sent très très calme, va aider ce petit lapin. Mais au bout d'un moment, le calme laisse place à un petit peu d'agacement. Pourquoi ? Je vais pas vous le dire, puisque...
Non, on va pas tuer le suspense. Le livre. Là, c'est pareil, un mot des images.
Les images, on a du coup le petit lapin qui avance au fil des réponses de la maîtresse et ce petit lapin qui est très très sincère et très très authentique va à chaque fois par exemple sentir les bottes qui sont un peu bizarres, qui touchent au bout des pieds. Donc là on voit la larme du lapin qui commence à arriver, puis l'énervement, on a toutes les émotions en fait, toujours à chaque page le lapin avec une émotion différente et qui fait face sur la page de gauche au discours de la maîtresse.
Et puis comme on est en période de carnaval, on va se déguiser, enfin c'est pas nous qui allons nous déguiser d'ailleurs.
Nous peut-être aussi. C'est Bully Bob se déguise de Nathalie Tual, Gilles Belloin et illustré toujours aussi magnifiquement par Ilia Green et paru chez Didier Jeunesse. Donc on retrouve nos personnages aussi qu'on a connus dans Bully Bob à l'école, Bully Bob en cuisine, etc. Et donc c'est un livre CD. Donc, comme tous les Bully Bob, on va alterner en fait du texte avec des chansons très, très rythmé, très gai.
Des chansons originales ou des chansons connues?
Des chansons originales, oui, de Nathalie Tual, qu'elle accompagne aussi avec son ukulélé. Et je vais vous faire écouter un exemple, si vous voulez. C'est la chanson « Quand on se déguise ».
Quand on se déguise, on a le droit de tout faire. Quand on se déguise, on est les rois de la terre. Quand on se déguise, on a le droit de tout faire. Quand on se déguise, guise, guise, en guise de robe. La chemise de nuit, en guise de cape. La veste de papy, en guise d'épée. Rouleau à pâtisserie, en guise de traîne. La nappe de mamie.
Quand on se déguise... Vous voyez un petit peu le rythme de ces chansons. Et ce sont deux enfants, en fait, Bulle et Bob, qui vont aller dans le grenier de leur mamie et y découvrir une malle extraordinaire avec du tissu, avec des vêtements et qui vont tester un petit peu toutes les trouvailles et à la fois se remémorer quelques souvenirs. Donc on passe de la fête, l'amusement à la nostalgie. C'est très enfantin et très joyeux.
Et nous voilà donc parés pour les lectures du mois de février, les lectures y compris pour les oreilles. Est-ce que Lily Roulotte se repose pendant les vacances ou est-ce que Lily Roulotte continue à rouler?
Lily Roulotte va diminuer un petit peu les voyages pendant les vacances et reprendre de plus belle après les vacances scolaires et surtout au mois de mars avec les semaines de la petite enfance qui vont commencer avec par exemple le 3 mars à Quimper, le lancement des semaines de la petite enfance dans les locaux de Tréteau Théâtre.
Eh bien très bien, on se retrouvera à ce moment-là. Merci Bérangère.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La rubrique de Lily Roulotte qu'on retrouve chaque premier mercredi du mois et donc la prochaine fois, ce sera le 7 mars. Et on écoutait à l'instant Voodoo Game avec le titre Dangerous Bees. Waouh, quel l'accent anglais de fou. Waouh. Et ça, c'est le 22 mars au Renard Pince. Oui, voilà, ne critiquez pas mon accent. Hein. C'est bon, ça suffit. Allez, on passe à Rosnoen. Depuis 2017, la mairie de Rosnoen a mis en place dans son restaurant scolaire une alimentation issue de l'agriculture biologique et locale. Cuisinée sur place, la nourriture est élaborée à partir de produits locaux et de saison. Rolande Bizek, première adjointe au maire, nous parle de cette démarche au micro d'Emeline.
Donc la démarche de revenir à une cantine scolaire en régie faisait partie des priorités de l'équipe municipale dès son élection en 2014. À la suite de plusieurs échanges entre les élus, la population et un travail en commun avec différents partenaires, notamment Brudette et Madame Maïwenn Magnier, avec la Maison du Bio et Florence Busson et avec Agorès et Carole Vasseur. Nous avons programmé des visites successives sur des sites du 35. Toutes ces visites nous ont apporté beaucoup dans notre projet, à savoir que les unes comme les autres étaient de bons conseillers dans l'élaboration de tout ce qu'on avait à faire pour justement transformer notre cantine et qu'elle soit opérationnelle en régie. Pour ce faire, nous savions que sur Rosnoen, nous avions différents producteurs, on a cette chance-là, hein, sur une petite commune, à savoir producteurs de viande, producteurs laitiers, producteurs de fruits, et que notre pain pourrait venir du pain d'antan, du fou, qui était basé au fou à cette époque-là. Donc tout ça, c'était en 2016. Donc 2016, on fait nos visites, on est vraiment motivé pour la poursuite et on se dit, ça y est, on y va, on va créer cette cantine. Il fallait absolument qu'on revoie l'agencement de notre cuisine, bien évidemment, hein, puisqu'il fallait trouver un cuisinier par la suite. Donc on a fait appel à différents fournisseurs et notre choix s'est porté sur les établissements Tirode pour la raison simple et qui sont très réactionnels et professionnels dans ce qu'ils font et que le matériel est français. Donc ça, c'était une priorité et on y tenait. Ensuite, ben, ma foi, on s'est dit, cuisine, ça y est, on a décidé, il va falloir qu'on recrute. On a recruté un cuisinier qui donne toute satisfaction et avec une psychologie bien en adéquation avec la psychologie infantile et avec une rigueur cependant, parce qu'il en faut. Nous avons contacté les différents producteurs donc du secteur, hein, de Rosnoen ou à proximité, et en sachant que l'épicerie, nous allons la prendre sur la Maison du Bio à Daoulas ou dans les environs. Voilà, donc notre travail était plus ou moins bouclé. Il nous restait également à prévoir un groupe de travail, parce que nous étions élus, mais il fallait aussi impliquer les parents, sachant que la décision de ce changement de cantine venait aussi du fait qu'il y avait une insatisfaction sur la cantine précédente et qu'il fallait absolument qu'on améliore par la qualité que l'on allait présenter au niveau des menus des enfants. Donc nous avons créé ce COPIL, qui est un groupe de travail composé de Monsieur le maire, Monsieur Kerneis, moi-même, deux représentants des parents d'élèves, hein, qui sont changés tous les ans pour qu'il y ait un turnover logique, le cuisinier et un représentant du personnel en salle. Ce qu'on peut vous dire autrement, c'est que le personnel en salle a été programmé pour une formation avec Monsieur Poussard du groupe Agorès, de façon à ce qu'il soit aidé dans ce changement aussi de fonctionnement, parce que c'est pas évident pour eux. Hein. Ce que je veux vous préciser aussi, qu'on a un personnel de valeur, parce que les élus ne peuvent pas faire eux-mêmes et tout seuls un changement tel que celui-là, et que c'est dépendant également de la valeur professionnelle des agents qui gravitent autour de cette cantine. Et ça, je tiens à le relever parce qu'on en est fiers.
Et niveau budget, est-ce que mettre en place une cantine bio, ça coûte plus cher aux parents pour payer les repas de leurs enfants ?
Non, nous, notre priorité est de ne pas augmenter le coût du repas. Donc on a été très, et ça on remercie bien évidemment le cuisinier, on a été très vigilant sur le fait qu'il ne fallait surtout pas que ça coûte plus cher. Et on a maintenu nos coûts, et ça c'est une grande force. Maintenu notre coût, pourquoi ? Parce que les produits sont bons. Donc en viande, il faut beaucoup moins de quantité parce qu'il n'y a pas de réduction à la chauffe, à la cuisson. On fait attention au gaspillage, donc ça se conçoit aisément. Et donc on a à cœur justement à ce que le coût ne soit pas plus important pour les parents. Ça, c'est une force aussi au niveau de notre cantine. On a cette chance-là d'avoir vraiment un bon professionnel. On a des produits de saison, donc ils s'adaptent systématiquement avec les produits de saison, hein, de proximité et de saison. Donc ça, c'est un atout supplémentaire. On a précisé que toutes les les pâtisseries sont faites par le cuisinier, ça c'est important pour que les parents le sachent. Parce que sur les menus, on met la provenance des produits et ça c'est important pour que le parent le sache réellement chez qui on s'approvisionne.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre contact avec les producteurs locaux et bio qui fournissent la cantine bio de Rosnoen ?
Alors nous avons des producteurs donc environnants, la ferme Les Coteaux de la Berre et Erwan Leroux, qui lui nous livre en bœuf bio, donc ça va être tout ce qui était caché, les rôtis de bœuf en local. La ferme de Carville-Lavelle, qui a un très bon cochon bio élevé au lait de vache. Alors c'est pareil, sur les commandes, on va dire la semaine d'avant, c'est par rapport à ce qu'il a en abattage, que derrière je vais voir si je vais partir sur du jambon, du rôti, charcuterie ou saucisse ou autre. Les producteurs travaillent aussi aux besoins de notre cantine. Voilà, c'est-à-dire que sur les volumes, on est vraiment en contact au téléphone. C'est aussi par rapport à ce que eux vont me fournir que je vais élaborer mon menu derrière. Je ne fais pas mon menu en avance et en disant tiens les gars, voilà, j'ai besoin de temps. Non, c'est vraiment un circuit court. Les gars, c'est des bons éleveurs. Ils font, voilà, ils cherchent pas non plus, je pense, à abattre plein d'animaux dans la semaine. Ils choisissent leurs bêtes, celles qui s'en prêtent. Et puis voilà. Après ça, c'est comme les maraîchers.
Et comment vous faites alors quand un producteur peut pas suivre le nombre de commandes que vous demandez pour le nombre d'enfants qui sont à la cantine ?
Ça arrive rarement. Ça arrive rarement parce que là, depuis un an, maintenant, on commence à avoir un rendement. Donc dans tout ce qui est matière première, mais on a encore beaucoup de besoins en fruits bio. Quelques variétés de légumes en plus seraient très intéressantes. Mais bon voilà, après faut pas hésiter aussi à nous démarcher. Hein. Mmh. On est là pour, que ce soit la commune ou moi-même. Parce que des fois il y a des gens, ils sont juste à côté, on n'est pas au courant non plus. Hein. Histoire que notre carnet d'adresse se remplisse au fur et à mesure. Plus on aura une variété et une plus grande production, plus on arrivera à faire de bons menus encore plus élaborés et plus goûteux.
Alors du coup, c'est vous qui préparez le planning de la semaine avec les recettes. C'est du 100% bio ou vous arrivez à faire partiellement du bio ?
Ça va être des fois ça va être 100%, mais on va dire dans la semaine, si on fait une moyenne, on doit arriver à peu près à 95%. Il y aura toujours 2-3 produits qu'on a encore du mal à se fournir en bio. Mais bon, on se tourne un maximum dans le local dans ces cas-là et voilà.
Quelles étaient vraiment les motivations de mettre en place cette cantine bio ? Qu'est-ce que ça apporte en plus aux enfants de manger bio ?
Déjà dans la rigueur au niveau des menus, des différents menus, qui changent régulièrement. Donc ça permet une augmentation de la consommation de fruits et des légumes, surtout des légumes, parce que les enfants, bien souvent, à part les pommes de terre ou les haricots verts, avaient, pas pour la plupart, mais certains avaient la méconnaissance des autres légumes. Augmenter la consommation de féculents, riches en fibres, bien évidemment. Augmenter les apports en fer et en calcium, diminuer les matières grasses et rééquilibrer les acides gras, diminuer la consommation de glucides simples ajoutés, hein, les produits sucrés notamment, et veiller aux excès d'apports en sodium ajoutés ou mis en œuvre. Nos menus sont à 5 composantes, donc il y a l'entrée, il y a la viande, le poisson ou l'œuf, les légumes et ça peut être les deux, ou les féculents, un laitage ou un fromage, un fruit cru, cuit, ou une pâtisserie, mais fait maison, parce que le cuisinier fait toutes ses pâtisseries.
Oui, donc l'intérêt aussi de mettre en place cette cantine bio, c'est de changer aussi tout le mode de préparation des aliments et de la nourriture.
Oui, absolument. Et de faire aussi connaître les producteurs donc, qui interviennent au niveau de la cantine, parce que c'est très important. C'est très important parce qu'en même temps, les parents sont au courant de ce que mangent leurs enfants, d'où viennent les différents produits. C'est quand même une force. Puis voilà, puis on en est fiers, quoi, parce qu'on fait travailler les producteurs locaux. Et ça, c'est important. Producteurs locaux et de notre commune, et des communes avoisinantes, je vais dire Anvec, Cisa, ça va pas beaucoup plus loin. Si Plougastel, parce que le pain d'antan maintenant est basé sur Plougastel. Nous avons aussi un producteur bio et sur Plougastel au niveau du port. Voilà, mais ça va, c'est l'éloignement le plus important. Autrement, tout est basé sur le secteur et on en est fiers. Et maintenant, nous allons avoir un producteur nouveau, c'est au niveau des yaourts. Donc ça, youpi, hein, puisque la Croix-Blanche avec Caroline et ses produits aux délices vont pouvoir fournir notre cantine. Et c'est un plus qui sera fort apprécié des enfants, je suppose. Notre priorité est également le gaspillage, sachant qu'auparavant, donc avec la cantine, cantine mise en place par un prestataire extérieur, il y avait beaucoup d'aliments jetés. Donc ça nous a alertés, bien évidemment, et ne voulant pas de gaspillage, ou le moins possible, le cuisinier et les dames en salle sont toujours vigilantes à ce que l'assiette soit pratiquement toujours terminée. Ce qui est le cas, puisque les enfants demandent à être servis. Donc vous voyez, nous n'avons pratiquement pas de gaspillage sur les produits alimentaires. Ce que je pourrais vous dire aussi dans cette cantine bio, c'est que nous sollicitons à nouveau le cuisinier, puisque depuis septembre 2018, nous avons mis en place le portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Nous avions une phase test dès le mois de juin 2018, qui a très bien fonctionné, avec une satisfaction à la clé. Et donc, dès septembre, nous avons décidé de mettre ce portage de repas à domicile en marche, et ça fonctionne également, puisque donc nous avons de la demande et que les personnes d'un certain âge ayant des problématiques de santé ne pouvant plus faire elles-mêmes leur repas, elles peuvent bénéficier de ce service. C'est d'autant plus important que ça maintient également la personne à domicile le plus longtemps possible. Voilà, et le lien social.
Et en fait, vous avez combien d'enfants qui viennent à la cantine tous les jours manger ?
Alors, en majorité, sur 90 enfants, un petit peu plus de 90 enfants scolarisés, bientôt 100, eh bien, nous avons à peu près 87 à 88% d'enfants qui déjeunent à la cantine, ce qui est quand même significatif par rapport à antérieurement où il y avait entre 50 et 60% d'enfants.
Vous avez mis une médiation aussi auprès des enfants autour du bio. Vous avez mis en place des ateliers.
Oui, ateliers, on n'a pas eu encore le temps de le faire, vraiment. Ateliers, on a fait des ateliers intergénérationnels, c'est-à-dire que cette cantine bio nous a permis de créer deux ateliers, notamment pâtisserie avec les enfants au sein de la cantine, et ça a été un succès formidable. Atelier intergénérationnel, donc avec des personnes au-delà de 60 ans, âgés d'au-delà de 60 ans, et les enfants fréquentant le centre de loisirs, ça a été un succès extraordinaire et une satisfaction des deux parties, donc des élus également, bien évidemment.
Et donc les enfants aussi ont eu le droit de planter, d'avoir un espace à eux aussi pour cultiver leurs produits bio ?
Alors, justement, j'avais oublié de vous dire ça et je vais vous le préciser. Donc, dans notre projet, on s'est dit que proposer aux enfants de mettre la main à la pâte, si vous voulez, pour que cette cantine fonctionne, il fallait leur expliquer un petit peu comment poussent ne serait-ce que les herbes aromatiques. Donc on s'est dit, devant la salle de restauration, nous avions un petit espace herbacé, nous l'avons transformé en petit jardin des écoliers, en y plantant et en proposant aux enfants d'y planter des herbes aromatiques, des plantes fraisiers, trois pommiers, et je vous assure que cet atelier a été d'un bonheur extraordinaire. Ça s'est fait en mai 2017, et en avril et mai 2017. Je pense que si je leur proposais encore à nouveau un atelier de la sorte, bon, ils seraient tout à fait contents d'y participer.
Vous avez peut-être mis en place un mode de compost aussi ?
Oui, voilà, nous avons également mis en place un composteur, donc pour le peu de déchets que nous avons, et également un récupérateur d'eau, voilà, tout ça dans le principe pour notre planète, pour le bien-être de notre planète, et si chacun amène sa petite goutte d'eau, on y arrivera, je pense. Ouais.
Et du coup, ça vous permet d'entretenir le petit potager que vous avez fait avec les enfants ?
Bien sûr, ce potager, on va y retourner dès le printemps pour le renettoyer et remettre en place peut-être quelques autres plantations. Toujours est-il que les enfants seront toujours sollicités ici sur cette commune, les enfants scolarisés, de par également la mise en place d'un verger conservatoire auquel on tenait, puisque Rose Noël vivait beaucoup aussi antérieurement avec ses pommiers, les pommiers de race très très précieuses, et donc nous allons les récupérer pour que ce verger conservatoire puisse faire garder les racines importantes de notre territoire. Et dans cette action, les enfants de la cantine et de l'école sont également sollicités, puisqu'ils sont à chaque fois présents lorsqu'il y a des actions à mettre en place pour que ce verger soit là. Dès le mois de mars, nous avons le greffage des anciens pommiers sur nos hautes tiges. Donc là, les enfants seront encore là.
Et c'est quoi les surprises que vous avez rencontrées, des choses qui sont arrivées avec cette cantine bio dont vous attendiez pas forcément de retour ?
Vous savez, on a les bonnes surprises, on en a eu, hein, de par les remerciements des parents. Ce qu'on peut s'enorgueillir, c'est le sourire des enfants, c'est le remerciement des enfants, c'est de les voir contents, de dire qu'est-ce qu'on a bien mangé. Vous allez en salle de restauration, vous observez, vous voyez les enfants qui demandent à Grégory, Grégory, est-ce qu'on peut avoir encore? Et qui sont tout à fait contents. Qu'est-ce qu'on peut dire, cette satisfaction-là? Elle n'est pas palpable, quoi. Elle est là, tout simplement.
Et est-ce que vous avez d'autres communes qui sont venues vous voir pour qui sont intriguées par votre démarche et qui ont envie d'adopter aussi cette démarche plus tard pour leur cantine?
Oui, je pense. Hein. Nous avons eu différentes communes, notamment de la CCPCAM, hein, avec Lanvéoc, avec Argol. Qu'est-ce qu'on a eu comme... On a eu encore une autre, je me souviens plus. Mais toujours est-il qu'on est là, prête à expliquer comment on s'y est pris, que c'est possible pour tout le monde, à condition d'avoir la volonté, hein, la volonté ferme d'y arriver, d'avoir le personnel aussi avec un professionnalisme tel que nous avons ici et que nous avons la chance de l'avoir, d'avoir les producteurs, pas très loin. C'est un tout, hein, c'est un tout, cette volonté, et on est là aussi pour aider les autres communes, comme on a été aidé par les communes 35. À l'identique.
L'EM pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast dans le courant de la journée sur le site de Radio Évasion. Jeudi, Véronique recevra dans l'EM Eau et Rivières de Bretagne. On vous parlera de grenouilles et d'autres batraciens. Voilà, très bonne journée à l'écoute de Radio Évasion.